Bonjour à tous. Je voudrais, pendant cette heure de cours, examiner les conséquences qu'a eu le déni du pouvoir exécutif, en prenant comme exemple de ce déni le pays dans lequel il a été le plus marqué, à savoir le cas français, et expliquer ce qu'on pourrait appeler la schizophrénie française, c'est-à-dire le fait que le culte du pouvoir impersonnel y a voisiné avec les formes de personnalisation les plus extrêmes. Selon le compte le plus rigoureux, la France a connu 11 constitutions depuis 1791, dont 9 durant le seul XIXe siècle. Et encore, ce compte n'inclut-il pas les révisions partielles qui ont pu notablement en modifier le contenu. Il a, en conséquence, été habituel de parler à propos de l'histoire politique et constitutionnelle française de, je cite François Furet, « véritable répertoire de tous les régimes imaginables » ou, je cite Georges Vedel, de « musée des formes politiques ». Monarchie, république, empire, monocamérisme ou bicamérisme, suffrage universel ou suffrage restreint, élection directe ou élection à 2 degrés, scrutin de liste, scrutin d'arrondissement, majoritaire, à 2 tours, proportionnel, régime conventionnel, régime présidentiel, régime parlementaire, le répertoire des expériences françaises paraît en effet bien avoir dressé le catalogue de tous les possibles. Mais derrière cette apparente diversité, c'est autour de 2 pôles majeurs qu'ont en fait toujours oscillé les régimes successifs. Georges Vedel avait ainsi noté, je le cite, que la prétendue expérience française était une fable et qu'en fin de compte, elle s'était ramenée à la plus morose et à la plus archaïque des alternances, du règne du monarque au règne des députés, du règne des députés au règne du monarque, et de parler même du même coup d'inexpérience constitutionnelle française pour souligner que la succession des régimes n'avait nullement été au service d'un apprentissage progressif de la démocratie dans l'Hexagone. Je partage ce constat, mais il me semble nécessaire de définir autrement les 2 termes de cette alternance. C'est entre l'utopie d'un pouvoir impersonnel et l'hyper-personnalisation de celui-ci qu'a plus précisément oscillé le modèle français, entre le gouvernement d'assemblée et les formes de démocratie plébiscitaire et illibérale, pour dire les choses en termes plus institutionnels. C'est bien en effet dans les modalités de son rapport au pouvoir exécutif que s'est déployée au premier chef la spécificité française de la Révolution à la fin du XIXe siècle. Le déni du pouvoir exécutif et la religion de la dépersonnalisation ont ainsi alterné en France avec son expansion illibérale et le culte césarien de l'homme-peuple. Les 2 pôles de cette oscillation ont fait système pour entraver le progrès démocratique. Il est donc essentiel d'en rappeler les termes et le mécanisme. En l'an 3, l'idée que le pouvoir exécutif devait être totalement subordonné au législatif restait dominante. Le projet présenté par Thibaudeau, projet de constitution, notait ainsi abruptement « La Convention ne doit pas abandonner dans ce moment les rênes du gouvernement à des mains étrangères. Elle ne pourrait s'en dessaisir sans danger. » On restait ainsi fidèle au modèle d'un gouvernement organisé dans le corps législatif représentatif, dans la continuité avec le type de rapport institué en 1793 entre la Convention et le Comité de salut public. Si le cadre intellectuel restait inchangé, les thermidoriens entendaient cependant, en même temps, rompre avec les dérives de ce Comité de salut public. Ils appelaient ainsi, politiquement et pourrait-on dire socialement de leur vœu, un gouvernement ferme. C'était une expression employée à l'époque. Ferme et réactif, capable d'instaurer un retour à l'ordre et de juguler les mouvements populaires, tout en souhaitant qu'ils ne présentent pas de menace pour les libertés. La solution elle était en l'an 3, d'instaurer une sorte de dualisme exécutif. Et c'est ce que mettra en place la constitution de l'an 3. D'un côté, la formation d'un directoire de 5 membres, exprimant la pensée du gouvernement, de l'autre, des ministres soumis aux ordres de ce directoire, révocables à sa volonté, chargés, selon la formule constitutionnelle, des détails de l'administration. Le directoire était une instance délibérante, alors qu'il était précisé que les ministres ne forment point un conseil. C'est donc à distance d'un pouvoir ministériel, toujours suspecté de faire renaître l'ancien régime, qu'une forme d'exécutif moderne a de la sorte commencé à être acclimatée en France. Exécutif, c'est ça le point important. Pensé sous une forme indissociablement collégiale et continuellement renouvelée, avec la nomination d'un nouveau membre chaque année, assurant de la sorte une sorte de dépersonnalisation radicale de l'institution qui écartait le spectre de la réapparition d'une figure royale. Et l'on sait le rôle qu'avait joué la rumeur d'un Robespierre désirant se faire roi dans son élimination. L'idée d'un pouvoir personnel, quelle qu'en soit la nature, n'avait en effet cessé d'être énergiquement repoussée pendant la Révolution, et il faut en rappeler les termes. Après la chute de la monarchie, en 1792, cette aversion s'était naturellement renforcée. Au moment où s'était formée la Convention nationale, en septembre, il y avait ainsi eu une réaction de rejet viscéral lorsque Manuel avait proposé que le président de la Convention prenne le titre de président de la France et qu'il incarne la dignité et la grandeur des institutions révolutionnaires en siégeant au Palais des Tuileries. Couthon avait alors résumé l'état d'esprit général en répliquant vertement à Manuel « Ce n'est pas la royauté seulement qu'il importe d'écarter notre Constitution, c'est toute espèce de puissance individuelle qui tendrait à restreindre les droits du peuple et blesserait les principes de l'égalité. » Dans un premier temps, l'enlisement du directoire, lorsqu'il fut jugé irréversible, ne remit pourtant pas en cause la formule collégiale. Les travaux préparatoires de la Constitution de l'an 8 avaient ainsi conjugué au pluriel l'existence du consulat, comme si le premier des trois consuls, même s'il avait des prérogatives considérables, restait tout de même entouré. Pourtant, Barras proposera d'instituer un président de la République, à ce moment-là, en l'an 8. Et c'est la première fois que la formule était utilisée, président de la République. Mais il n'avait pas été suivi. L'heure n'était pas encore venue de penser au singulier l'exécutif démocratique. Même si c'est d'abord la prétention de ce personnage, Barras, occupait un tel poste que Bonaparte avait taxé de ridicule, qui avait conduit les contemporains à ne pas sérieusement considérer sa proposition. C'était donc par sa propre détermination et sa capacité à éliminer les résistances à son ascension que le premier consul devint progressivement le seul maître de l'exécutif, renvoyant le législatif une fonction décorative. Mais lorsque la page de l'Empire sera tournée avec la Restauration, c'est de nouveau le parlementarisme classique qui constituera l'horizon jugé indépassable des idéaux libéraux et démocratiques. Une expérience inédite s'est interrompue, détruite dès 1802 par sa dérive, qui en avait fait l'héritière des formules du passé et non l'annonciatrice d'une figure d'avenir. En l'an 8, Sieyès avait pourtant lancé la formule d'une considération à ses yeux démocratique de l'exécutif, en disant « la confiance vient d'en bas, l'autorité vient d'en haut ». Mais le système des listes de notabilité qu'il avait imaginé et que reprendra la nouvelle Constitution était loin d'être l'équivalent d'une onction populaire. Et l'idée d'un exécutif directement élu par les citoyens n'était pas présente chez lui. Et pourtant, cette idée d'un exécutif directement élu par les citoyens avait bien été évoquée à plusieurs reprises pendant la Révolution. D'abord par Condorcet. En 1791, il avait ainsi publié une brochure ayant pour titre « Sur l'institution d'un conseil électif ». Il avait l'idée d'une collégialité, mais bien le premier à avoir formulé l'idée d'un pouvoir exécutif élu. Et c'est en tant que précurseur de l'idéal républicain, alors très isolé en 1791, qu'il avait formulé la proposition d'un tel conseil, destiné à prendre collectivement donc la place du roi. Conseil qui aurait dû être composé pour lui de personnes je le cite, choisis par les mêmes électeurs que les membres des législatures. C'est-à-dire les citoyens auraient voté à la fois pour le législatif et pour l'exécutif. Le pouvoir exécutif devait donc être à ses yeux l'égal en légitimité du pouvoir législatif. Il précisera 2 ans plus tard cette idée dans son fameux projet de constitution présenté en février 1793. Il y notait que ce conseil exécutif devait être composé de 7 ministres et d'un secrétaire. Mais s'il voulait que ces ministres soient élus immédiatement par les citoyens de la République dans les assemblées primaires, il n'envisageait cependant pas de mettre un chef à leur tête, gardant bien une formule complètement collégiale. Et il considérait que ce conseil devait être présidé alternativement par chacun des ministres, le président en étant changé tous les 15 jours. C'est ainsi, avec Condorcet, qu'est esquissé pour la première fois l'idée d'un exécutif ayant une consistance propre et appelé de ce fait à être consacré par les urnes. Et dans son exposition des principes et des motifs du plan de constitution, auquel je viens de faire référence, de février 1793, il avait noté en ce sens « Les membres du Conseil ne sont point élus par le corps législatif puisqu'ils sont les officiers du peuple et non ceux de ses représentants. » C'est-à-dire les choses de la façon la plus claire. L'idée ne sera ensuite reprise qu'une seule fois en l'an 3, par Fréron. Lui aussi plaidera pour une séparation des 2 pouvoirs exécutifs et législatifs, constatant l'effet désastreux qu'avait eu leur confusion dans la période précédente. Et la liberté et la démocratie le conduisaient à inviter ses collègues parlementaires à retirer, je le cite, de leurs mains inviolables un pouvoir exécutif qui devait dorénavant être confié à des mains responsables. Responsabilité qui ne pouvait procéder pour lui que d'une élection populaire. C'est donc par là, pourrait-on dire, par un biais libéral, qu'il appelait à une procédure démocratique de nomination, pour qu'il y ait un exercice possible de la responsabilité. Mais c'était un discours qui était alors encore inaudible. Et le modèle du gouvernement d'assemblée continuera à constituer l'horizon indépassable pour les esprits révolutionnaires à la veille de l'an 8. Voyons quelles sont les utopies sous-jacentes au gouvernement d'assemblée. Le caractère démocratique du gouvernement d'assemblée était jugé essentiellement lié à son double caractère d'impersonnalité libératrice. Impersonnalité institutionnelle, d'abord, tenant au caractère intrinsèque du législatif et au déni de la consistance propre de l'exécutif, suspecté de conduire inéluctablement à la constitution d'un pouvoir personnalisé et donc structurellement dominateur. J'ai déjà longuement développé ce point. Mais impersonnalité substantielle aussi, d'autre part, dérivant du règne conséquent de la volonté générale. L'âge de la domination fondé sur le présupposé d'une extériorité entre gouverné et gouvernant était donc de cette façon aussi déclaré clos, sauf à réapparaître sous les aspects d'un dysfonctionnement représentatif de nouveau créateur d'un écart coupable. Extériorité impensable est donc déclarée aussitôt impossible. D'où l'obsession d'organiser un monde dans lequel elles paraissent être définitivement conjurées. Monde dont la Révolution française a exploré les conditions de réalisation sur un triple mode. Dans l'ordre d'abord de l'organisation de la représentation nationale, en la voulant confondue avec la société sous les espèces d'une puissance d'incarnation. Au-delà des dispositifs techniques ponctuels visant à la mise en place d'un régime plus fidèlement représentatif, c'est l'hypothèse d'une superposition possible et nécessaire entre les 2 sphères du pouvoir et de la société qui a donc aussi constitué l'horizon de la politique révolutionnaire. En 1793 et 1794, de façon particulièrement éclatante, n'a ainsi cessé d'être affirmé un idéal de fusion entre le peuple et ses élus. Et la critique des dysfonctionnements du système représentatif a alors conduit à voir dans l'identification du peuple au pouvoir la condition de son plein accomplissement en tant que souverain. Et si Robespierre instruisait encore en 1792 le procès du despotisme représentatif, selon une formule très commune, il a ensuite légitimé à l'inverse son action en partant du présupposé de la fusion entre le peuple et la Convention, cette Convention étant même définie par lui comme un simple, je le cite, « abrégé du peuple ». Et les Montagnards iront jusqu'à noter dans cet esprit qu'il constituait, je les cite, « le corps vivant de l'opinion publique ». La fabrication d'un homme nouveau sera en second lieu évoquée pour définir les conditions de possibilité d'une société parfaitement accordée aux institutions. Dans son travail sur l'instruction publique, Mirabeau avait été l'un des premiers à formuler cette ambition en appelant ses concitoyens, je le cite, à combler l'intervalle immense mis entre l'état des choses et celui des habitudes. Et les multiples plans d'éducation qui seront publiés pendant la Révolution reprendront cette antienne de la nécessaire formation d'un individu citoyen accordé aux exigences d'une collectivité une. Et le terme de régénération, concept clé du discours révolutionnaire, avec la charge énergétique qu'il évoquait sensiblement, a alors traduit cet impératif de l'avènement d'un monde débarrassé de ses adhérences au passé. Avec lui, la formation d'un pouvoir société était aussi indexée sur l'oubli de l'individu dans le citoyen. On pensera encore conjurer l'écart du pouvoir à la société d'une troisième façon, en expulsant de la réalité les dissidents politiques, ceux qui rendent possible en la contestant l'action du pouvoir, en les traitant d'ennemis du peuple ou d'agents de l'étranger. Et tout écart entre le pouvoir et la société a été longtemps rapporté à la présence d'une extériorité radicale et ou pernicieuse, celle de l'étranger, du criminel, de l'ennemi intérieur. Ce n'était donc plus au dysfonctionnement d'un système qu'étaient rapportés les inaccomplissements de la promesse démocratique, mais à l'existence d'un ver dans le fruit qui, disons, dénaturait le monde social. Ces modalités institutionnelles et substantielles de l'impersonnalité, prenant le visage d'un gouvernement d'assemblée, échoueront cependant à produire leur effet libérateur et ouvrir les portes d'un nouveau monde démocratique pendant la période révolutionnaire. Du fait du rejet de la contrainte terroriste que cette impersonnalité avait fini par impliquer d'abord, provoquant la réaction thermidorienne, mais aussi et surtout du fait des illusions qui sous-tendaient sa figure même. D'où, pourrait-on dire, l'avènement mécanique de Bonaparte. Avec Bonaparte, la rupture sera double. Il s'imposera d'abord comme expression d'un nouveau régime plus immédiatement sensible de la volonté, succédant à la précédente aspiration vers l'abstraction du processus révolutionnaire et au retournement de cette abstraction sous les espèces de l'impuissance thermidorienne. Le général en chef de l'armée d'Italie avait bien compris sur ce point que la volonté générale était loin d'épuiser l'aspiration moderne à façonner le monde. J'ai déjà développé ce point dans la deuxième heure d'introduction à ce cours et je n'y reviens donc pas. Mais Bonaparte a aussi proposé un autre régime d'incarnation, lui aussi plus immédiatement sensible. C'est sur le mode d'une personnalisation du pouvoir qu'il a entendu réaliser les objectifs non atteints par l'impersonnalité institutionnelle et substantielle. Il a de la sorte opéré une sorte de révolution dans la révolution. Pour bien prendre la mesure de ce retournement, il peut être utile de distinguer les phénomènes de personnalisation du pouvoir, ceux d'individualisation du pouvoir et ceux de présidentialisation du pouvoir. La personnalisation a une dimension en fait essentiellement institutionnelle. Elle traduit le fait que le détenteur d'un pouvoir institutionnel est un individu. Le président américain, tel que le définit la Constitution de 1787, incarne un pouvoir personnel. La présidence, se confond avec un individu. Personnalisation du pouvoir s'oppose donc sur ce point avec pouvoir collégial. L'individualisation est différente. L'individualisation emporte une notion de confiscation, de pouvoir concentré, qui correspond à un réarrangement et une polarisation de l'ensemble des pouvoirs. La présidentialisation, quant à elle, renvoie essentiellement à une caractéristique procédurale. C'est l'élection populaire du détenteur de la fonction exécutive. Elle précise d'une certaine façon la dimension de personnalisation. C'est une procédure de gestion de la personnalisation. On voit là que la caractéristique majeure du bonapartisme est d'abord l'individualisation du pouvoir, alors que la présidence américaine s'inscrit clairement dans le registre de la personnalisation. Napoléon, en effet, précipitera trois éléments. Le retournement de la collégialité en pouvoir personnel, l'affirmation de la suprématie absolue de l'exécutif sur tous les autres pouvoirs et la brutalisation, pourrait-on dire, de la légitimation du pouvoir liée à son illibéralisme en même temps que l'individualisation de celui-ci. Il aura de la sorte mis fin à la précédente dénégation de l'exécutif dans toutes ses dimensions, mais bien sûr sous les espèces de sa caricature. Caricature, c'est là l'essentiel, qui apparut à certains de ses contemporains comme un progrès, l'exercice nécessaire d'une volonté ayant pris corps en lui, prétendument expression du pays et de son peuple. C'était donc, pourrait-on dire, un faux départ pour une prise en compte démocratique de l'autonomie de l'exécutif et de sa spécificité. La première manifestation et la plus forte de l'exécutif a été celle, pourrait-on dire, d'une puissance débordée, pour reprendre le langage de Montesquieu. Napoléon avait prétendu appuyer son pouvoir sur l'accord du pays, mais il ne s'était, lui, jamais présenté comme un démocrate, ce qui ne sera pas le cas de son neveu. Napoléon III se préoccupera, en effet, d'inscrire le bonapartisme dans le cadre de la démocratie moderne, en entendant simultanément donner sa pleine expression au pouvoir exécutif et instaurer un lien direct et sensible entre les détenteurs du pouvoir et la société par le recours au plébiscite. D'où la dimension de présidentialisation. Dès sa proclamation du 2 décembre 1851, Louis-Napoléon considérait ainsi la mise en place, je le cite, d'un chef responsable comme la clé de son projet constitutionnel. Et le plébiscite introduisait pour lui une forme, je le cite toujours, une forme légale de la responsabilité du chef de l'État. Il s'inscrivait ainsi dans une conception élargie de la légitimation et du contrôle du pouvoir exécutif. Principe de responsabilité qu'il prenait lui-même sans ses formes que dans le cadre d'une personnalisation accrue du pouvoir. Napoléon III ne s'est pour cela pas seulement considéré comme l'élu des Français, celui qui, d'abord sorti vainqueur du scrutin de décembre 1848, avait ensuite estimé que sa révision constitutionnelle forcée avait été validée en 1852. Il se présentait ainsi comme un homme-peuple, incarnant adéquatement les attentes et les aspirations du pays. Et il se considérait de cette façon comme un représentant beaucoup plus effectif que le simple délégué parlementaire. Et ce d'autant plus qu'il avait qualifié d'unanime les suffrages, effectivement écrasants, qui avaient consacré sa position. Et c'est pour cela que les turiféraires du régime ne cesseront de célébrer ses avancées démocratiques. C'était certes d'abord faire fi de sa dimension foncièrement illibérale. Napoléon III et ses partisans poussaient en effet au-delà de ses limites leur prétention à représenter adéquatement toute la société. Ils faisaient en cela comme s'ils avaient aboli la dimension de fiction qui est normalement attachée au fait de l'élection majoritaire. Et toute opposition était pour cela chez eux, renvoyés à une prétention antidémocratique. Et les voix discordantes étaient disqualifiées comme n'exprimant que des intérêts particuliers, douteux donc, face à la volonté générale censée être adéquatement représentée par le pouvoir. Les journaux pouvaient être ainsi muselés, les comités électoraux interdits, les opposants pourchassés au nom de cette volonté générale qu'ils auraient visé à saper. Le trait marquant de ce césarisme était en effet que les libertés publiques y étaient réduites au nom même d'une certaine conception de l'exigence démocratique. Il ne s'agissait nullement d'une simple contradiction interne au régime. La démocratie illibérale qu'il incarnait procédait en effet d'une pathologie interne à une certaine formulation de l'idée démocratique et du pouvoir exécutif. Elle procédait de trois éléments. La prétention d'abord à réduire l'indétermination démocratique par une philosophie et une pratique de la représentation-incarnation. L'affirmation, en second lieu, de l'illégitimité de toute définition du public qui déborde l'espace des institutions légales. Et le rejet, en troisième lieu, de tous les corps intermédiaires politiques accusés de perturber l'expression authentique de la volonté générale. La démocratie illibérale radicalisait de la sorte le monisme révolutionnaire français sous les espèces de la suprématie de l'exécutif, ce qui faisait évidemment la différence, tout en l'associant à une résolution utopique du problème de la représentation. Cet illibéralisme structurel a distingué le césarisme bonapartisme d'un simple présidentialisme aux tendances autoritaires. Mais le régime ira plus loin encore, bien sûr, puisqu'il justifiera le rétablissement d'un empire héréditaire. Il rompra là avec l'idéal républicain lui-même et rabaissera la vie de la démocratie à la formulation d'une sorte de contrat primitif entre un peuple et une dynastie. Après la chute du régime, en 1870 d'ailleurs, le mouvement bonapartiste reprendra cette question et se divisera sur ce point. S'il se fera globalement l'apôtre de l'utilisation du référendum et de l'élection populaire de l'exécutif, il joindra sa voix à tous les mouvements antiparlementaires en cela, mais il laissera paraître deux sensibilités. D'un côté, ce qu'on a appelé les impérialistes, qui continueront de faire du plébiscite la clé de leur doctrine et entendront donc limiter l'intervention directe du peuple à la consécration du régime et de son chef. Paul Granier de Cassagnac sera leur chef de file. Mais de l'autre, Cuneo d'Ornano et ses amis évolueront vers le modèle d'une république référendaire, le plébiscite constituant étant fondateur, mais s'élargissant ensuite une élection régulière au suffrage universel du président de la République et à la mise en place d'un système dense de référendums législatifs et communaux. Il y a donc, dans l'héritage du césarisme, à la fois, pourrait-on dire, la république plébiscitaire et à la fois le retour à la vision impériale. Mais mis à part cette deuxième sensibilité de transition, celle de Cuneo d'Ornano, qui restait tout de même marginale, on peut considérer que le césarisme-bonapartisme n'a que partiellement ouvert la voie au présidentialisme moderne. Il faut comprendre ensuite de quelle manière la Troisième République a cherché de façon forcenée à retourner à la dépersonnalisation. Sous le Second Empire, les opposants à l'empereur n'avaient pas eu l'intelligence de leurs critiques. Ils avaient dénoncé avec force et avec raison l'illibéralisme du régime, mais ils avaient été incapables de théoriser le rejet de ces prétentions démocratiques au nom d'une vision positive de la démocratie qu'ils auraient eux-mêmes défendue. Face aux champions du régime qui faisaient valoir le retour au suffrage universel, effectivement sérieusement mis à mal par la loi de novembre 1850, et l'hommage rendu à la souveraineté du peuple par l'usage des plébiscites, ils répliquaient seulement qu'il s'agissait d'un suffrage manipulé. Ils étaient donc loin de comprendre aussi qu'il devait repenser sur d'autres bases que celles du régime l'exercice du pouvoir démocratique, du pouvoir exécutif en démocratie. Et ils firent pour cela simplement retour à la vision la plus étroite qui soit du gouvernement d'Assemblée. Le grand tournant, on le sait, a été pris après la crise du 16 mai 1877. Je rappelle brièvement les termes. MacMahon était alors président de la République, succédant en 1873 à Thiers. Le 8 mars 1876, l'Assemblée nationale sortante, celle qui avait été élue en 1871, avait transmis ses pouvoirs aux deux nouvelles chambres, le Sénat présidé par un orléaniste et la Chambre des députés présidée par un républicain modéré, il s'agissait de Jules Grévy. Et les relations avec un président ultra-conservateur s'étaient vite avérées très tendues. Les objets de discorde portés sur la question religieuse, très prégnante à l'époque, autant que sur l'organisation des pouvoirs publics, ou même portant sur des problèmes symboliques, comme celui de l'amnistie des communards, par exemple. Mais c'était en fait la question même du régime qui était en cause. MacMahon et ses partisans, à cette période, croyaient encore à la possibilité de restaurer un régime conservateur autoritaire et d'en finir avec la République et le parlementarisme. Et c'est la crise du 16 mai qui allait lever cette hypothèque. Constatant que Jules Simon, le chef du gouvernement, était devenu minoritaire à la Chambre, MacMahon le contraignit à la démission le 16 mai. Et il avait justifié son intervention dans la vie des institutions en disant « Si je ne suis pas responsable, moi, président, comme vous devant le Parlement, j'estime que j'ai une responsabilité devant la France. » Et sous l'impulsion de Gambetta, la Chambre des députés avait alors voté un ordre du jour estimant que, je cite, « la prépondérance du pouvoir parlementaire s'exerçant par la responsabilité ministérielle était la première condition du gouvernement du pays par le pays. » Et c'était cela que les lois constitutionnelles de 1875 avaient eu pour but d'établir. Et les preuves de force étaient donc engagées. MacMahon annonça aux chambres qu'elles étaient ajournées, comme le permettait la Constitution, s'engageant donc dans la voie d'une dissolution permise par la Constitution de l'époque. Et la victoire du camp républicain aux élections d'octobre 1877 tranchera et, de fait, redéfinira le régime en obligeant le président à renoncer à l'avenir à l'exercice d'une de ses prérogatives les plus manifestes. Et l'hypothèque d'un retour à un ordre conservateur autoritaire avait été levée avec l'adoption d'un parlementarisme triomphant. C'est bien en effet le régime parlementaire qui avait été le vainqueur, marqué par l'obsession d'écarter désormais les personnalités excessives, selon le mot fameux de Gambetta. Et la liste des présidents du Conseil suffit à témoigner du succès de l'opération de dépersonnalisation. 50 ministères se succéderont de 1876 à 1914, sous 8 présidents de la République. Les grandes figures du monde républicain n'ont occupé qu'une place relativement secondaire dans le dispositif gouvernemental de cette période. Gambetta, Léon Bourgeois ou Émile Combes n'ont été président du Conseil qu'à une seule reprise. Jules Ferry le sera deux fois. En revanche, les plus obscurs, Charles Dupuis, Jules Dufort, le seront à 5 reprises. Et Alexandre Ribot à 4. Il faut vraiment être un bon spécialiste de la période pour avoir entendu parler d'Ernest de Cisset, de Grimaudet de Rochebouette, de Pierre Tirard, de Jean Sarien, ou d'Ernest Moniz, qui furent pourtant chacun chefs du gouvernement sous la Troisième République, avant 1914. C'est à la Chambre des députés et au Sénat, en effet, que tout se jouait. Et c'est là que se manifestaient l'activité et l'influence des grands noms. Tout s'est ainsi alors passé comme s'il y avait eu une préférence pour le choix de personnalités faibles pour exercer les responsabilités gouvernementales. Cette entreprise quasi systématique de dépersonnalisation a réussi et inauguré ce que Daniel Halévy avait pour cela appelé les temps obscurs. Les débats sur l'introduction du scrutin de liste ont de leur côté aussi témoigné de cette recherche d'une politique dépersonnalisée. Les choix des candidats, dans le cas du scrutin de liste, devenant, dans l'idéal, déterminés par les idées qu'ils défendaient. Les personnes devaient s'effacer derrière leurs idées. Et ce scrutin de liste était considéré comme intrinsèquement républicain, exprimant l'essence de l'impersonnalité républicaine. Il avait d'ailleurs été inauguré en 1848, aux élections d'avril 1848, premières élections au suffrage universel. S'il était défendu comme intrinsèquement républicain, il ne sera pourtant utilisé que de 1885 à 1889 au XIXe siècle, parce que les notables républicains craignaient de se voir éclipsés par les états-majors partisans qui étaient alors en voie de formation. Et c'était bien souligné que cette dépersonnalisation n'était en même temps que l'envers d'un pouvoir diffus et caché, celui des notables et plus tard des partis, c'est-à-dire d'une oligarchie sans visage. Dépersonnalisation ne voulait pas dire démocratie, mais oligarchie sans visage. Et l'épisode boulangiste, à la fin des années 1880, allait prouver qu'il était aussi celui d'un pouvoir éloigné et distant de la société, et pour cela, producteur d'un désenchantement citoyen. En même temps, il n'y a pas eu de réflexion pendant toute cette période sur le pouvoir exécutif. Il y a eu quelques réflexions pionnières mais ces réflexions pionnières ont davantage été formulées au début du siècle. Il faut d'abord comprendre que la première réflexion sur le pouvoir exécutif chez les libéraux n'a pas été une réflexion sur le contenu du pouvoir exécutif, mais sur la dimension du pouvoir exécutif. C'est donc une appréhension qui s'est manifestée en étant reprise dans l'antienne de la nécessaire faiblesse du pouvoir. Donc ça n'était pas une théorie des rapports entre l'exécutif et le législatif, c'est une théorie de la faiblesse du pouvoir. Et c'est Benjamin Constant qui a exprimé de façon la plus exemplaire cette opposition, reprochant à la Révolution de s'être contenté d'opérer une translation de la souveraineté d'un roi absolu à un peuple pareillement tout-puissant. Et le problème pour lui n'était pas celui du pouvoir exécutif spécifiquement, mais celle de la puissance sociale d'un pouvoir juste transféré. Je le cite dans un passage célèbre de ses Principes de politique de 1815. C'est, disait-il, le degré de force et non les dépositaires de cette force qu'il faut accuser. C'est contre l'arme et non contre le bras qu'il faut sévir. Il y a des masses trop pesantes pour la main des hommes. L'erreur de ceux qui, de bonne foi, dans leur amour de la liberté, ont accordé à la souveraineté du peuple un pouvoir sans bornes, vient de la manière dont se sont formées leurs idées en politique. Ils ont vu dans l'histoire un petit nombre d'hommes, ou même un seul, en possession d'un pouvoir immense qui faisait beaucoup de mal. Mais leur courroux s'est dirigé contre les possesseurs du pouvoir et non contre le pouvoir même. Au lieu de détruire le pouvoir, ils n'ont songé qu'à le déplacer. C'était un fléau, ils l'ont considéré comme une conquête. Cette appréhension du pouvoir exécutif a longtemps été dominante chez les libéraux. Et c'est pour cela que, en conséquence, Benjamin Constant appelait, je le cite, à rayer du vocabulaire le mot de souveraineté. Mot de souveraineté qui prenait pour lui sa plus grande force, justement, dans l'exécutif. Que ce soit par le biais des prétentions d'un pouvoir à être le corps vivant du peuple ou par le modelage de la réalité pour le rendre conforme à son concept, la distance des gouvernés et des gouvernants n'a pour cela jamais été pensée dans sa normalité. Normalité qui aurait appelé une construction démocratique de cet écart. Il n'y a pas de pensée démocratique du pouvoir exécutif s'il n'y a pas de reconnaissance d'un écart entre gouvernés et gouvernants qu'il s'agit d'organiser. Necker aura fait exception pendant la Révolution. Il est le seul à avoir formulé une réflexion construite sur le pouvoir exécutif. Et c'est son opposition, peut-être au nouveau régime, qui lui a donné sur ce point une lucidité qu'avaient peu ses contemporains. Après la chute de la monarchie, en 1792, il publia en effet un traité sur le pouvoir exécutif, qui s'appelle « Du pouvoir exécutif dans les grands États », en deux volumes. Et il publia en même temps, dans d'autres ouvrages dispersés, des réflexions générales sur la Révolution, dans lesquelles il montrera l'incontournable spécificité de ce pouvoir qui avait été mis hors champ de la pensée politique par les hommes de 1789. Il est donc important de retourner vers cette réflexion pionnière de Necker. Voilà ce qu'il dit au début de son ouvrage. La grande source des erreurs philosophiques, a-t-il souligné, est le peu d'attention qu'on a donné au principe de subordination dans les grands États. C'est le peu de réflexion qu'on a fait sur les conditions nécessaires à l'empire des lois et au maintien de la discipline sociale. Et d'ailleurs, Necker n'avait pas hésité pour cela à afficher sa sympathie pour le système présidentiel américain, alors que tout le rapprochait de l'idéal monarchique, son histoire personnelle et aussi son attachement à la monarchie anglaise. Et c'est pourquoi il s'attachera dans cet ouvrage de 1792 à préciser les résultats de sa réflexion sur l'importance et la spécificité de ce pouvoir exécutif. pouvoir exécutif qu'il qualifiait de force motrice du gouvernement, réunissant l'action à la volonté. Qualifier le pouvoir exécutif de force motrice du gouvernement, c'est évidemment une expression totalement neuve à cette époque. Et il disait, quoique second en apparence, dans l'ordonnance politique, c'est le pouvoir exécutif qui joue le rôle essentiel. Et son livre, consacré au sujet, qui est indéniablement le plus original et le plus puissant de son œuvre, est pourtant passé presque inaperçu. Réception qui témoigne d'ailleurs en elle-même de l'impensé de l'époque sur le sujet. Necker y prenait en effet totalement à contre-pied les réflexions des hommes de 1789 sur la composition du corps législatif et le sens à donner aux principes représentatifs. Alors que les hommes de 89 avaient focalisé toute leur attention sur les principes de l'organisation du corps législatif et le sens à donner aux principes représentatifs, il les considérait, lui, comme tout à fait secondaires, ou du moins susceptibles d'un éventail de solutions qui pouvaient être considérées comme également satisfaisantes. Pour une raison très simple, c'est qu'à ses yeux, la fonctionnalité législatrice d'un Parlement est celle qui est première. Et c'est celle qui est simple à définir dans son objet, la production de normes. Mais cette fonctionnalité parlementaire, disait-il, n'est pas en elle-même substantiellement modifiée par le nombre de ses membres, par exemple, leur mode de nomination ou la durée de leur mandat. Sa fonctionnalité n'était pas absorbée par sa forme. Voilà le message essentiel qu'il voulait dire. La fonctionnalité de la fonction parlementaire est première, la forme est seconde. C'était rejoindre là une vision anglaise très forte de la dimension constitutionnelle du pouvoir législatif. Et donc, ce pouvoir législatif n'est pas en lui-même substantiellement modifié par le nombre de ses membres, leur mode de nomination ou la durée de leur mandat. Alors qu'en revanche, disait-il, la constitution du pouvoir exécutif compose la principale et peut-être l'unique difficulté de tous les systèmes du gouvernement. En effet, la forme du pouvoir exécutif est ce qui définit sa fonctionnalité, alors que c'est l'inverse pour le pouvoir législatif. L'analyse de Necker est sur ce point fort éclairante. Le pouvoir exécutif, expliquait-il en effet, est un pouvoir directement actif, qui est totalement défini par le contenu de ses actions, qui se réduit à ses actions. Sa fonctionnalité est du même coup entièrement dépendante de ses formes et de sa pratique. Il n'existe ce pouvoir exécutif, disait-il, que par la réunion de toutes les propriétés qui forment son essence. Il tire sa force et des secours réels qui lui sont donnés et de l'assistance continuelle de l'habitude et de l'imagination. Il doit agir comme la nature et par des moyens visibles autant que par un ascendant inconnu. Le pouvoir exécutif, écrivait-il encore, a le même but, la même destination dans tous les gouvernements. Ainsi, l'on peut aisément décrire ses fonctions et les séparer de celles qui appartiennent exclusivement au corps législatif. Mais, poursuivait-il, quand on veut composer ce pouvoir exécutif, quand on veut faire le choix des éléments propres à constituer sa force, quand on veut s'assurer d'une action sans abus, d'un mouvement sans destruction, et quand on veut appliquer toutes ces propositions à une grande rotation, à un espace immense, on s'aperçoit des difficultés d'une pareille théorie. Et l'on pardonnerait peut-être, poursuivait-il, à l'Assemblée nationale de les avoir méconnues ou d'en avoir distrait son attention, si tous nos malheurs, ceux que nous avons éprouvés, ceux que nous ressentons, ceux que nous craignons encore, poursuivait-il, ne devaient pas être rapportés à cette première faute, nous aurons longtemps à le regretter. Et Necker faisait ainsi œuvre de pionnier, en s'interrogeant ainsi sur les conditions d'un gouvernement simultanément efficace et libéral. Et si le pouvoir exécutif réside bien dans ses moyens, son efficacité, elle, est totalement dépendante de son autorité, c'est-à-dire de la dimension d'institution invisible qu'il comporte. Necker a bien souligné les deux dimensions. Que tout pouvoir est à la fois une machine, est à la fois en même temps une autorité. La machine est définie par ses rouages, l'autorité est définie par ses formes d'ascendant qui définissent l'institution invisible, c'est-à-dire la possibilité d'être obéi sans discussion et sans coercition. Necker anticipait sur ce point les analyses que développera Guizot dans « Des moyens de gouvernement et d'opposition ». Necker, j'y viendrai tout à l'heure, Necker a aussi procédé à une analyse précise des conditions dans lesquelles la mise en place des comités de l'Assemblée nationale avait conduit à nier la réalité de la nature propre du pouvoir. Et il a vu dans cette négation la source, justement, de tous les dérapages révolutionnaires. Négation qu'il a significativement considérée parallèlement à l'exaltation utopique d'un peuple directement législateur. Comment maintenir dans un vaste royaume les liens mystérieux de la subordination et de l'obéissance? Voilà quelle était pour lui la question du pouvoir exécutif, en tant qu'autorité, institution invisible. Il fallait d'abord, bien sûr, pour Necker, un pouvoir unifié, en situation d'être ainsi responsable et de contribuer par là au maintien des libertés. Et c'était aller à contresens de la vision révolutionnaire des vertus du collectif. Il reprenait donc là, tout à l'heure, les réflexions que je mettais tout à l'heure dans la bouche de Fréron sur la question de la responsabilité. Voilà ce que disait Necker. Comment, justifiait-il, ne serait-on pas effrayé de l'autorité sans bande d'un être collectif ? Parce que cet être collectif, il peut passer dans un clin d'œil d'une nature vivante à une nature abstraite. Il n'a besoin ni de compassion ni de pitié et ne redoute pour lui-même ni condamnation ni censure. La responsabilité, poursuivait Necker, n'en est fait de sens que si elle est attributive. À cet argument libéral s'ajoutait pour lui une considération fonctionnelle. Les vertus du nombre se manifestent dans la conduite d'une délibération. Il y a donc une supériorité méthodologique d'une assemblée pour la délibération, tandis que l'exercice de la décision, qui ressort du registre de l'action, requiert, elle, un vecteur concentré. Et il disait, ce n'est pas avec un char à 745 roues que l'on peut faire la ronde autour d'un royaume pareil à la France. La marche en serait trop lente et trop embarrassante, et l'on ne saurait se passer d'une action plus rapide pour maintenir partout l'ordre et la liberté. Mais l'affirmation d'un pouvoir exécutif comme clé de voûte du système politique et la vision de son exercice en termes d'organisation d'une subordination ne faisait pas pour autant de Necker un disciple des théoriciens de la raison d'État. Il avait en effet, Necker, intégré le fait de l'existence d'une société civile capable d'autonomie, comme celui de sa capacité d'expression citoyenne. Il avait en conséquence une approche beaucoup moins arrogante que celle d'un Naudet ou d'un Mazarin. Il rejetait ainsi vigoureusement la tentation, je le cite, de réunir la dureté à la puissance pour arriver à gouverner. Mais il n'a cependant fait qu'esquisser l'interrogation sur les questions de ce gouvernement et de ce pouvoir exécutif à l'âge d'un peuple émancipé, ne développant que de rapides considérations sur le gouvernement des esprits. Son principal apport est d'avoir montré la distinction structurelle entre le législatif et l'exécutif et d'avoir montré que les conditions d'exercice d'une responsabilité ne peuvent être le fait que d'un pouvoir concentré. La responsabilité, quand elle est diluée dans un organisme collectif, finit par ne plus pouvoir s'exercer. Et c'est pourquoi Guizot, que je mentionnais tout à l'heure, continuera cette œuvre en quelque sorte en proposant une vingtaine d'années plus tard la première tentative de définir une gouvernementalité moderne et un pouvoir exécutif ayant une consistance propre. Alors que Necker avait surtout considéré le pouvoir exécutif dans son essence et ses fonctions, Guizot l'analysera surtout en termes d'efficacité au regard de ses modes d'interaction
avec la société. Dans un des ouvrages politiques majeurs de la Restauration, Des moyens de gouvernement et d'opposition, Guizot a posé en des termes radicalement neufs les conditions d'un exercice adéquat du pouvoir. Il vaut pour cela la peine de le citer longuement. Le pouvoir, écrivait-il dans cet ouvrage, est souvent saisi d'une étrange erreur. Il croit qu'il se suffit à lui-même, qu'il a sa propre force, sa propre vie, non seulement distincte, mais indépendante de celle de la société sur laquelle il s'exerce, comme le laboureur sur le sol qui le nourrit. Que faut-il au laboureur, poursuivait-il ? Des valets, des chevaux, des charrues. Il fait mouvoir tout cela sur la terre et la terre se soumet. Le problème est que le pouvoir se croit de même condition. Des ministres, des préfets, des maires, des percepteurs, des soldats, c'est là ce qu'il appelle des moyens de gouvernement. Et quand il les possède, quand il les a disposés en réseau sur la face du pays, il dit qu'il gouverne. Et il s'étonne de rencontrer encore des obstacles, de ne pas posséder son peuple comme ses agents. Et il poursuivait, je me hâte de le dire, ce n'est point là ce que j'entends par moyen de gouvernement. Si cela suffisait, de quoi se plaindrait aujourd'hui le pouvoir ? Il est pourvu de telles machines. Jamais on n'en vit autant ni d'aussi bonnes. Cependant, ce pouvoir répète en même temps que la France est ingouvernable. C'était la majorité ultra de 1821. Que tout est révolte et anarchie. Ce pouvoir meurt de faiblesse au milieu de ses forces, comme Midas de faim au milieu de son or. C'est, en effet, poursuit Guizot, que les vrais moyens de gouvernement ne sont pas dans ces instruments directs et visibles de l'action du pouvoir. Ils résident au sein de la société elle-même et ne peuvent en être séparés. C'est là qu'il faut les chercher pour les trouver. Là aussi qu'il faut les laisser pour s'en servir. Grâce au ciel, la société humaine n'est pas un champ que vient exploiter un maître. Elle vit d'une autre vie que le mouvement de la matière. Elle possède et produit elle-même ses plus sûrs moyens de gouvernement. Elle les prête volontiers à qui sait les manier. Mais c'est à elle qu'il faut s'adresser pour les obtenir. Et il est vain de prétendre la régir par des forces extérieures à ses forces, par des machines établies à sa surface, mais qui n'ont point de racines dans ses entrailles et n'épuisent point le principe de leur mouvement. Il concluait, les moyens de gouvernement intérieur que renferme et peut fournir le pays, voilà ce dont je m'occupe. Et Guizot mettait simultanément l'accent sur la centralité de ce qu'il avait appelé peu de temps auparavant le gouvernement des esprits. Et on le sait, lorsqu'il deviendra en 1832 ministre de l'Instruction publique, il s'attachera à mettre en place tout un réseau d'institutions culturelles associées au pouvoir, destinées à gérer le sens commun. Cette prise de conscience des nouvelles conditions de l'art de gouverner et de l'exercice du pouvoir exécutif se traduira sous la Restauration par l'apparition d'un néologisme. On commencera ainsi à parler de gouvernementabilité. Cette expression de gouvernementabilité, elle est une expression que Louis XVIII lui-même avait employée. Ces réflexions de Guizot restaient celles d'un homme d'action. Dans son maître livre, il voulait comprendre un paradoxe. Comment un ministère tout-puissant pouvait s'avérer incapable de maîtriser son objet alors qu'il avait muselé l'opposition et qu'il disposait d'une forte administration et d'une police efficace. Guizot avait compris qu'à l'âge démocratique, exercer le pouvoir impliquait de savoir traiter avec les masses, et pour cela impliquait de maîtriser des moyens de gouvernement qu'il qualifiait d'intérieurs. En théorie comme en fait, écrivait-il, gouvernement et société ne sont point deux êtres distincts, c'est un seul et même être. Le terme de gouvernement changeait bien sûr de sens chez lui. Gouvernement ne voulait plus dire régime en général, mais gouvernement voulait strictement dire pouvoir exécutif. Et le problème de l'ère post-napoléonienne, soulignait-il encore, était de constituer le gouvernement par l'action de la société et la société par l'action du gouvernement. Guizot voulait dire par là que la société moderne, étant structurée par un entrelac dynamique, un tissu, selon sa propre expression, d'opinions, de passions, d'intérêts, était même unie par une sorte de susceptibilité nerveuse, l'opinion, le gouvernement ne peut avoir d'efficience que s'il interagissait avec ces éléments constituant la vie des masses. C'était l'argument principal de cet ouvrage des moyens de gouvernement et d'opposition. Les véritables moyens de gouvernement résident dans ses intérêts, ses passions, ses opinions qui constituent les besoins de la société. Ils étaient, selon ses expressions, les anses par où le pouvoir doit saisir pour émouvoir les masses. Gouverner revient donc à s'insérer dans ce système des besoins, à s'y couler, en tâchant de s'y conformer dans la plus grande coïncidence possible. Et la critique des machines politiques et des moyens de gouvernement extérieurs se prolongeait ainsi chez lui en critique sociale. Si le gouvernement de 1821, le gouvernement ultra, est une machine qui tournait à vide, c'est parce que la dynastie régnante était, je le cite, sinon étrangère, du moins trop extérieure à l'existence publique, trop peu ancrée dans les besoins et dans les forces qui semblent appelées à décider du sort futur de tous. Il appelait en conséquence ses amis libéraux à apprendre à gouverner autrement, à redéfinir le pouvoir exécutif pour préparer le jour où ils arriveraient au pouvoir. C'était là, certes, un discours de gouvernant, mais Guizot avait en même temps aperçu quelque chose de vraiment neuf en pensant en termes d'interaction le rapport entre le pouvoir exécutif et la société. Mais cette réflexion restera isolée et Guizot lui-même sera loin, une fois aux manettes du pouvoir, de suivre les conseils qu'il avait précédemment dispensés. Ne subsisteront alors dans la vision de l'exercice du pouvoir exécutif que l'arsenal des petites recettes, des habiletés et des roueries censées assurer une certaine conservation des positions acquises. Tandis que du côté du gouvernant, seuls semblaient compter les changements de régime ou de majorité pour faire advenir un peuple véritablement législateur. Ces deux œuvres, ces deux réflexions, celle de Guizot et celle de Necker, ont donc en quelque sorte été ensevelies. Mais au moment où il est nécessaire de réfléchir sur le pouvoir exécutif, il est important de rappeler que deux ouvrages fondamentaux ont, le dernier, celui que j'ai mentionné, Guizot, eu l'originalité de penser le pouvoir exécutif sous les espèces d'une interaction, et que le premier, de ne plus le penser sous les espèces d'une fonctionnalité, mais sous les espèces essentielles d'une forme. Et de cela, nous verrons qu'il en sera fait usage plus tard, et je commencerai à en parler tout à l'heure.